bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Salut les marketeurs, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, je suis rejoint par Ludovic Barthélémy de marketinghack.fr. Je voulais absolument avoir Ludovic sur le podcast parce qu'il est un expert en tout ce qui est conversion. Et c'est quelqu'un, vous allez le voir dans l'interview, qui sait regarder des chiffres, qui sait regarder un compte Google Analytics et qui sait optimiser les choses pour avoir les meilleurs résultats. Dans cette interview, vous allez apprendre pourquoi c'est important d'être là où vos concurrents ne sont pas, en particulier comment utiliser le marketing offline pour booster un business en ligne. Ludovic va aussi nous parler des différents leviers que vous pouvez utiliser pour augmenter votre taux de conversion. Et enfin, vous allez apprendre pourquoi tout marketeur a besoin d'un développeur pour mieux faire son boulot. Alors, sans plus de transition, je vous présente Ludovic Barthélémy. Salut Ludovic, bienvenue sur le podcast. Donc la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu es un spécialiste de tout ce qui est conversion et c'est vraiment le sujet du podcast, le sujet dans lequel j'ai envie d'aller profond aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un? Comment est-ce que tu définis ton travail?
Écoute, je me présente tout simplement comme entrepreneur spécialisé en web marketing. Je donne pas plus de détails, je me définis pas comme entrepreneur web, je trouve ça très restrictif. Sachant que j'ai d'autres activités à côté, j'ajoute, si on me demande, la spécialité web marketing, mais uniquement si c'est des rencontres de gens du web.
D'accord, donc je comprends là-dedans que tu as des business qui sont totalement offline.
Ouais, que je suis en train de mettre en place. J'en avais eu un avant de démarrer sur internet, là je suis en train d'en mettre en place, qui verront si j'ai de la chance le jour en fin d'année, mais voilà, avec les aléas, je pense plutôt début 2016.
D'accord, et là tu peux en parler ou c'est trop tôt encore?
Je pense que c'est un peu trop tôt.
Ok. Donc c'est intéressant parce que, étant un spécialiste du marketing web, qu'est-ce qui toi te pousse à faire ces business offline? Est-ce que toi tu te vois surtout comme quelqu'un qui suit des opportunités? Quelle est la raison derrière?
Totalement. Bah en fait, si tu veux, il y a tout simplement des... Déjà, j'ai toujours eu envie de faire un truc dans la bouffe, dans l'alimentation. Donc voilà, pour donner une piste, il y aura un truc là-dedans. Après, ouais, c'est des histoires d'opportunités. Tu vois, je suis allé en Afrique en début d'année. J'ai senti une grosse opportunité de faire quelque chose là-bas. Donc dans le business offline. Donc quand je dis business offline, on utilise quand même les technos actuels. Hein, il y aura toujours un site web. Alors pour le côté Afrique, plus une application mobile. Parce que là-bas, quasiment personne n'a d'ordinateur. Mais ils sont tous connectés sur le mobile. Donc tu t'adaptes. Donc il y a toujours effectivement une brique numérique. Même si je fais un truc dans l'alimentation, il y aura une brique numérique. Ce serait un peu dommage de se passer de cette possibilité justement de fédérer les gens, de les fidéliser, etc. Mais voilà, c'est du business en dur avec souvent un ou plusieurs points de vente, des gens qui bossent dedans, etc. Mais c'est vraiment ouais une histoire d'opportunité. Si tu veux, je peux très bien tomber sur rencontrer quelqu'un demain. Voilà, un truc qui m'intéresse. C'est aussi, je voyage beaucoup cette année. Donc toi, j'étais en Croatie récemment. Là aussi, j'ai senti des business à lancer avec notre couche. Là encore dans la bouffe d'ailleurs. Là, pour faire simple, en Croatie, je n'ai pas vu. Donc je parle de Dubrovnik. Bah en fait, j'ai bouffé que de la merde, pour faire simple. Même un sandwich, c'est dégueulasse. Enfin, il n'y a pas une brasserie toute bête, tu vois, avec du bon pain, des bonnes pâtisseries. Donc j'ai senti un gros potentiel parce qu'il y a des touristes du monde entier et que tu bouffes que de la merde.
En particulier, le pain français est un business énorme à l'étranger. Hein. Il y a plusieurs mecs qui ont fait fortune au Japon, au Brésil, avec juste en important du pain français. Enfin, en faisant du pain français.
Alors, il suffit pas d'apposer la touche boulangerie française, mais si t'as vraiment les bons produits et que tu sais le marketer un tant soit peu, c'est vrai que ça marche bien, quoi.
Donc, je voudrais rebondir là-dessus parce que une des choses qui m'a vraiment intéressé dans mon interview avec Grégory Lagrange, c'est qu'on avait passé un peu de temps à discuter de tout ce qui était marketing offline, et en particulier envoyer des lettres physiques à tes prospects. J'ai vu que c'est quelque chose sur toi, tu avais travaillé aussi. Tu penses que c'est un bon complément encore aujourd'hui?
Bah en fait, il faut le tester encore une fois. Moi, j'en suis venu, ça fait 2-3 ans que j'ai cette idée en tête. J'en suis venu là vraiment, enfin j'ai décidé à faire un test, que j'ai un client et ami qui a travaillé dans la VPC pendant une vingtaine d'années, donc il fait que ça, hein, envoyer des mailings, Tout est envoyé par mailing, donc postaux, papier. Pardon. Et moi, je pensais qu'il y avait des taux de conversion ridicules de genre, je sais pas, 1, 2%. Et il me disait qu'en moyenne, il faisait toujours 4% et que notamment en début d'année, il avait fait du 8%. Donc voilà, il envoie, je dis une connerie, mais 1000 lettres, 80% achètent tout de suite et derrière, il envoie un upsell peut-être une semaine après par la poste, là, 30%. Donc je me suis dit, il y a un truc à tester, notamment parce que moi, je travaille beaucoup, notamment pour mes formations AdWords, référencement local, je travaille beaucoup avec des professions libérales. Enfin, j'ai beaucoup de clients, experts comptables, notaires, avocats, tout ce que tu veux, surtout que les avocats, ils se sont rués là-dessus depuis qu'ils ont le droit de faire de la pub parce que c'est assez récent, en fait.
C'était en octobre, ça, octobre 2014.
Ouais, il me semble un truc comme ça. Ouais. Il y a vraiment pas longtemps, je crois qu'il y a même pas un an. Et donc, ils se sont rués là-dessus, mais en n'importe comment, donc sans savoir vraiment y faire. Donc, en payant des coûts par clic, tu as sur AdWords à 20 euros, en envoyant sur un pauvre site vitrine où il n'y a même pas de moyens, limite, faut chercher vraiment, faut être motivé pour trouver ne serait-ce qu'un numéro de téléphone ou un email. Donc, il y avait tout à faire. Et donc, j'ai beaucoup de clients comme ça, mais j'ai aussi, il y avait surtout aussi beaucoup de clients potentiels qui ne sont pas sur Internet. Enfin, un expert, un comptable, un avocat, un notaire, enfin des clients avec qui j'ai pu discuter. Si tu veux, ils sont pas. C'est certainement pas la cible qui va être 1 heure par jour sur Facebook. Ils consultent, si tu veux, beaucoup leur smartphone, mais je veux dire surtout leur agenda, etc. Mais voilà, c'est pas des gens qui vont faire beaucoup de recherches sur Google. C'est pas des gens qui passent 1 heure sur Facebook. Donc c'est des gens que potentiellement tu n'auras pas. Si tu appliques les techniques conventionnelles sur Internet, et en plus, c'est surtout pas des gens, moi, si je reste dans la formation vidéo, qui vont prendre le temps de se farcir 4 vidéos, même si elles durent 5 minutes. C'est des gens, voilà, il y a une offre commerciale à leur faire, faut la faire tout de suite. Si tu veux leur vendre une formation qui vaut, je sais pas, moi, 500 euros, tu leur expliques tout simplement, si t'as des exemples en plus, que ça va leur permettre d'afficher leur cabinet en première page de Google. Donc, ils sont pas trop cons, potentiellement ils comprennent que c'est plus de rendez-vous pour eux. T'as pas besoin de leur faire le scénario d'email marketing avec 5 vidéos. Sinon là tu les perds, j'ai fait un test. En fait j'ai fait un test, j'ai envoyé une offre directement en page de vente et une offre inscrivez-vous, recevez X vidéos. J'ai quasiment personne qui s'est inscrit pour recevoir les vidéos alors que sur la page de vente j'ai fait beaucoup de ventes tout de suite. Donc je me suis dit, je vais leur envoyer une lettre par la poste, je vais leur faire une proposition tout de suite, enfin les ramener sur internet et leur proposer tout de suite d'acheter un produit en rapport avec leur activité et effectivement ça a bien marché. Et je veux maintenant, si tu veux faire ça à grande échelle, le seul problème effectivement là-dedans, c'est que ça coûte hein, potentiellement un envoi, c'est 2 euros.
Donc du coup, comment est-ce que tu qualifies les listes à l'avance? Comment est-ce que tu sais qui cibler? Est-ce que tu les achètes ou est-ce que tu les scrapes?
Donc je parle souvent de scraping pour l'email marketing, je fais pareil pour le physique, c'est-à-dire que je vais tout simplement sur les pages jaunes. Si je veux taper bah, les experts comptables, je vais tout simplement taper experts comptables, puis d'abord à Paris, puis à Lille, puis machin, puis je récupère une liste d'experts comptables dans cette zone-là, donc par exemple à Lille. Et puis voilà, j'ai mon fichier d'adresse postale avec tous les experts comptables, enfin, en tout cas une bonne partie qui habite à Lille.
Ok, dans ce cas-là, à quoi ressemble l'enveloppe que je vais recevoir moi en tant qu'expert comptable? J'ai une enveloppe, j'ai une page à l'intérieur, à quoi ressemble ton pitch?
Alors je vais pas te déballer tout le truc parce que c'est une formation que je vends.
Dans les grandes lignes.
Pour faire simple, on va surtout pas. Enfin l'objectif c'est que ça ressemble pas à un truc promotionnel. Donc surtout pas une enveloppe avec le logo de la société et tout ce que tu peux voir quand tu reçois des prospectus par la poste. Enfin, faut vraiment pas que la personne ait une sensation que ce soit un prospectus, une publicité. Voilà. Et bien entendu, à l'intérieur, tu vas pas déblatérer enfin, tout ton argumentaire de vente que tu fais sur Internet. Sur Internet, si t'as une page de vente, même courte, qui fait... Enfin, je veux dire, si tu vas l'imprimer, même si elle paraît courte sur Internet, si tu veux, elle va faire facilement... 5 à 10 pages A4 une fois imprimé. Donc bien évidemment tu fais pas ça. Moi l'objectif c'est de faire le plus court possible. Encore une fois on a affaire à des gens pressés. Donc voilà, tu fais idéalement une page. Voilà. Pour faire simple. L'objectif étant d'envoyer la personne le plus rapidement possible sur internet, puisque c'est quand même là derrière que tu fais ton business, c'est là que tu vas pouvoir vraiment traquer tes taux de conversion et puis essayer de vendre un produit.
Donc tu leur donnes un lien qui est spécifique à ton mailing, tu regardes le nombre de personnes qui vont, le taux de conversion derrière sur tes pages.
Exactement, et puis derrière, t'essayes de vendre un produit, tout de suite un produit d'appel, bien évidemment, ils ne te connaissent pas, donc t'essayes pas de leur vendre un produit à 500 euros tout de suite. Donc en fait, exactement derrière la technique d'Internet, hein, quand je fais une pub sur AdWords, j'envoie jamais des gens sur une formation à 300, 400, 500 euros. C'est toujours un produit d'appel à moins de 50 euros. L'objectif étant de prouver, de montrer que tu as un contenu de qualité. Et puis derrière, si tu veux, au sein même de l'espace membre de la formation, j'ai tout simplement une proposition vers une formation plus élevée, complémentaire, avec beaucoup plus de contenu, avec une mini page de vente, jamais trop longue, parce que la personne a déjà, je pense, enfin, en général, si tu as bien fait les choses, elle a pris connaissance de la qualité de ton contenu, t'as pas besoin de lui renvoyer derrière une page qui fait 20 km de long.
Du coup, pour revenir un peu sur du pur web, toi, quand quelqu'un, disons que t'as un nouveau client qui vient te voir pour l'optimisation du taux de conversion, quels sont les premiers leviers que tu regardes? Et là, je veux vraiment, tu vois, aller sur une loi de Pareto en me disant quels sont les 20% que tu regardes dès le départ où tu vas pouvoir faire la plus grosse différence?
Bon, déjà, je lui demande ce qu'il a, ce qu'on peut mesurer, parce que ça peut te paraître étonnant, mais en 2015, je vois des clients, des fois même des très grosses boîtes qui arrivent, qui n'ont rien pour rien traquer. C'est-à-dire, il y a un Google Analytics où en fait, tu peux rien voir si ce n'est le nombre de visiteurs.
Ça me surprend pas, j'en ai vu beaucoup.
Voilà, donc déjà, bon, c'est malheureusement le cas très souvent, donc on essaye de voir ce qu'on peut faire sur autre chose. Bien souvent, tu as quand même moyen de récupérer des datas avec certains outils. Hein. Tu as des gens qui vont utiliser des générateurs de landing page de type Unbounce, Lead Pages, etc. Donc là, déjà, ça permet de voir quels sont leurs taux de conversion, enfin sur le nombre de gens qui vont sur la page, combien s'inscrivent. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui vont utiliser des outils qui ne seront pas, si tu veux, Google Analytics, mais des outils qui permettent de mesurer. Par exemple, si tu as un PrestaShop ou un site e-commerce, mon PrestaShop, par défaut, si tu veux, te donne quand même un certain nombre d'indicateurs. Enfin, même si la personne n'a pas mis en place de tunnel de conversion, etc., on peut assez vite voir sur un mois que le site, même si c'est... Enfin, ce ne sera pas les mêmes chiffres en termes de visites que sur Analytics, mais voilà. On peut rapidement voir que telle page, s'il y a 500 références, que telle page, justement, a engrangé 80% des visites, et que sur tant de visiteurs, il y a eu tant de chiffres d'affaires. Donc, là, on peut voir un ratio de base et puis tout de suite, ce qu'on va regarder, si c'est un site e-commerce, on va regarder en priorité le taux de conversion basique, c'est-à-dire combien de gens, entre guillemets, vont passer d'une page produit, si tu veux, à une page tarif ou page d'achat, appelle ça comme tu veux, ou page de mise au panier. Et puis derrière, on va analyser le tunnel, c'est-à-dire, alors s'il n'y a pas de Google Analytics pour le mesurer, etc., bon, on va tout simplement regarder voilà, sur le nombre de gens qui ont mis au panier, combien ont acheté. Donc derrière, on va pouvoir commencer à travailler là-dessus, c'est vraiment la base.
Donc la première chose que tu fais, c'est tu ouvres les analytics et tu regardes ce qu'ils ont, quoi.
Oui, complètement. Parce que t'as des clients, en plus, qui te disent un peu n'importe quoi, parce qu'ils savent pas trop à quoi ça correspond. Moi, tu vois, ça m'est arrivé de parler une demi-heure avec un gars. J'ai commencé à lui parler, si tu veux, de prospects. Et lui, dans sa tête, tout le long de la discussion, il me parlait de visiteurs uniques. Moi, je parlais de prospects inscrits qui ont au moins donné un email.
Moi, ça m'est arrivé de parler à des gens qui dépensaient pas mal d'argent sur AdWords et qui n'avaient aucune idée de leur taux de conversion.
J'en ai eu un il y a une heure, en fait, qui m'a dit « Je fais des campagnes Facebook, je lui dis ça rapporte combien ?» Je sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Non, je sais pas, t'as pas installé un pixel de conversion sur ta thank you page après paiement ? Bah non. Donc moi, je récupère beaucoup de clients comme ça, qui sont des fois des gros. Mais d'un autre côté, je veux dire, encore une fois, je suis pas offusqué. Enfin, chacun son métier, quoi, si tu veux.
Ouais, c'est vrai. Du coup, tu parles de sources de trafic Facebook, etc. J'ai vu que sur ton site, vous proposiez beaucoup de services différents entre Facebook, AdWords, du référencement. Toi, est-ce que t'as des paramètres que tu utilises pour choisir les différentes sources de trafic? Parce que moi, j'ai un certain nombre de critères qu'on utilise pour se dire est-ce que telle source est adaptée ou pas. Nous, on fait principalement du Facebook en ce moment. Quels sont les critères que tu regardes là-dessus?
Alors, déjà, c'est tout le temps, je vais commencer par tester des leviers rapides. Pour mesurer si tout simplement ils sont rentables pour moi ou pas. Donc qu'est-ce que j'appelle levier rapide ? Concrètement tout ce qui est payant. Hein. Donc AdWords, Facebook notamment, si tu fais une pub sur l'un de ces deux réseaux, t'es assez vite fixé si tu veux. On va dire que moi j'essaie tout le temps de laisser tourner un mois, mais je veux dire voilà, en un mois t'es fixé. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Parce qu'en un mois t'as eu le temps de faire des tests, tester tes landing pages, tester tes pages de vente, ton tunnel, si tu fais comme moi de l'email marketing, est-ce que tes contenus que t'envoies par email, est-ce qu'il y a des bons taux d'ouverture d'email, est-ce que quel contenu génère des ventes ? Si t'as une série de 5 emails, il y en a forcément un ou deux qui va générer plus de ventes que d'autres, et ainsi de suite. Et donc. Pardon, des leviers rapides, quoi. Parce que si tu commences à vouloir traquer le SEO, dans un an, tu vas commencer à pouvoir faire des choses. Donc, des leviers rapides comme ça. Et en fait, si tu veux, j'identifie principalement 4 leviers qui vont être les pubs sur Facebook, les pubs sur AdWords, le scrapping sur LinkedIn et Facebook, et d'autres méthodes de scrapping annuaire et compagnie dont je parle souvent. Donc des méthodes qui me permettent tout simplement de choper de l'email en masse rapidement pour tester. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le canal, le secteur d'activité que j'attaque, je pars toujours là-dessus.
Ok.
Voilà, je ne fais plus d'affiliation pour aucun de mes business. J'en ai parlé dans une vidéo. Trop de perte de temps, trop de galères pour pas grand-chose. Le référencement, bien entendu, j'en fais. Mais ça dépend du secteur d'activité. Si je dois travailler sur un de mes sites e-commerce, le référencement va aisément représenter 50% du trafic. Par exemple, sur Marketingac, le référencement, c'est ridicule. C'est pas ridicule, c'est peut-être 25%. Et je ne m'y intéresse pas plus que ça, si tu veux, parce que ça convertit mal. C'est-à-dire que les gens qui viennent de google.fr pour rechercher des conseils marketing cherchent des conseils gratuits. C'est-à-dire, en termes de taux de conversion, c'est ridicule, ça ne vend pas.
Alors d'abord, j'ai un truc sur lequel je voulais revenir, parce que ça surprend souvent les gens. Tu me dis que tu vas faire tourner ton test pendant un mois sur du AdWords ou du Facebook. Combien de budget, grosso modo, tu mets sur un test de ce type-là?
Alors, si tu veux, encore une fois, si c'est pour moi, je ne vais pas te parler de clients. En général, j'essaye de mettre le minimum possible, sachant que moi, je suis... je pars du principe que si tu veux avoir des taux de conversion vraiment fiables, et là, je parle sur une page de vente, il faut que j'ai au moins 8000 visiteurs. Mais ça veut dire que si je veux avoir 1000 visiteurs qui viennent sur la page, il m'en faut beaucoup plus que ça. T'as 1000 personnes qui viennent sur une landing page, ok, ils donnent leur email parce que tu leur promets ce que tu veux, du contenu gratuit, des bons de réduction, enfin peu importe, tu fais ton truc. T'as 1000 visiteurs, déjà tu sais que on va pas partir sur si t'es chanceux, on va prendre la moyenne. La moyenne, tu sais que derrière, tu vas, comme le prospect est chaud, si t'arrives à faire ton truc en 10 jours maximum, tu sais que tu vas en gros avoir 30% de taux d'ouverture sur chaque email, si tu veux. Mais en général, c'est tout le temps les mêmes gens qui ouvrent. Donc restons sur 30%. C'est un peu faussé ce que je dis, mais on n'y est pas très loin. Donc là, t'as 30% des gens qui ouvrent. La moyenne constatée des taux de clic quand un prospect est chaud se situe entre 10 et 30%. Donc là, c'est pareil, on va arrondir, on va dire 20%. Donc sur tes 300 qui ont ouvert, il y a 20% qui ont cliqué pour aller sur ta page de vente. Et encore, pas forcément, parce que souvent, quand on envoie un email, c'est pas directement sur une page de vente. C'est par exemple sur une vidéo gratuite. Donc là, t'as plus que 60 personnes qui vont sur ta vidéo gratuite. Et sur ta vidéo gratuite, t'as un lien en dessous, ok, tu veux en savoir plus, ça t'a intéressé, viens sur ma page de vente. Et là, tu vas peut-être avoir 20% de clics. Donc sur tes 60, il y en a plus que 12 qui vont sur ta page de vente. Donc je sais pas si tu vois un peu le bordel, moi j'en veux 1000 qui vont sur la page de vente. Donc ça répond à ta question de quel est le budget que je mets pour avoir le nombre de visiteurs que je veux pour aller sur ma page de vente.
Et c'est drôle parce que du coup, tu sors une réponse qui est absolument opposée à ce à quoi je m'attendais. Je voudrais que tu me dises, bon, bah, on balance 200 euros et on est fixé. Effectivement, si tu testes un funnel, c'est plus complexe. Okay. Du coup, je voudrais pivoter un petit peu et parler du site Marketing Hack en lui-même. Est-ce que tu peux me rappeler quand est-ce que le site a été lancé?
Fin août 2014.
D'accord, donc c'est récent. Et j'ai vu sur votre site que vous étiez déjà à 49 000 abonnés email. Et donc là, ton principal levier, du coup, si j'ai bien compris, ça va être du trafic payant.
Mes deux principaux leviers, c'est le trafic payant et le scrapping. Je suis un gros scrapper.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu appelles par scrapping, parce que tu l'as déjà mentionné. Je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle.
Alors, j'utilise différentes techniques. La technique de base, c'est là, c'est notamment quand je vais chercher tout ce qui est profession libérale, etc. J'utilise des annuaires. Donc je vais taper annuaire expert comptable sur Google, annuaire avocat, enfin peu importe. Et là, tu as énormément d'accès où tu as des emails en libre. C'est-à-dire un annuaire expert comptable, j'en ai trouvé un. Il y avait près de 47 ou 48 000, je sais plus, emails en accès. Donc tu avais une fiche profil à chaque fois avec nom de l'entreprise, adresse postale, numéro de téléphone, nom du dirigeant, email. Donc je scrape tout ça et puis derrière, hein, je fais pas les choses n'importe comment. Hein, voilà, j'envoie mes emails. Ensuite, je vais scraper Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le graphe Facebook, tu peux taper, alors il faut mettre des requêtes en anglais, mais tu vas saisir un certain nombre de requêtes. Par exemple, je veux les gens qui aiment, WebRank Info. Et puis, je vais pouvoir en fait récupérer tous les gens qui aiment WebRank Info. Puis derrière, si tu veux, je vais récupérer tous les profils de ces gens-là. Et puis derrière, si tu veux, je me démerde pour trouver leur email. Alors là, je ne vais pas tout déballer, il y a différentes techniques. C'est ça aussi, c'est une formation que je vends. Mais je veux dire, c'est faisable. Alors derrière, tu vas te retrouver avec des centaines de milliers d'emails. Alors là, c'est pareil, tu peux pas les envoyer n'importe comment, parce que si tu vas surtout pas shooter 100 000 emails comme ça, tu vas surtout pas envoyer directement comme si c'était un prospect, si tu veux, qui avait fait la démarche de s'inscrire sur ton formulaire. Donc il y a des subtilités, t'envoies dans du dur, là les gens ne te connaissent pas, les gens n'ont rien sollicité, donc faut être subtil. Et dernière méthode, en fait, c'est tout simplement LinkedIn, quoi, si tu veux. Moi, LinkedIn, j'ai créé plusieurs comptes LinkedIn en fonction de mes secteurs d'activité. Mon compte LinkedIn, il reste propre, j'y touche pas. Mon compte principal, je fais rien là-dessus, je spamme personne, j'envoie quasiment jamais d'emails. Enfin, j'en envoie de temps en temps, j'ai exporté mes emails LinkedIn. Mais, par exemple, quand j'ai lancé une offre en début d'année que j'avais appelé marketing, SEM for Equity, qui était concrètement en échange de parts, on gère tout votre marketing à condition que vous ayez une start-up dans le logiciel, un beau site e-commerce ou une place de marché. Là, je me suis permis de solliciter mes contacts dans lesquels il y a des investisseurs, des patrons de start-up, etc. Et j'ai eu un bon taux. Mais alors, si je commence à les envoyer vers des landing pages pour des formations, je me fais flinguer, tout le monde... tu vois, c'est fini. Donc, voilà. Mais sinon, je crée tout simplement différents comptes LinkedIn par rapport à mes secteurs d'activité. J'adapte le profil à la cible que je vise, le profil de mon compte LinkedIn, et derrière, tout simplement, Soit tu développes un bot si tu as un développeur sous la main qui va ajouter X personnes par jour, faut pas en ajouter trop parce que sinon LinkedIn va te bloquer, ou alors bah, tu payes une petite main que tu vas trouver sur upwards.com, l'ancien odes.com, etc. Et tu lui dis voilà, tous les jours tu tapes tel mot-clé et tu vas m'ajouter tant de personnes. Et faut savoir que sur LinkedIn tu as un très bon taux, c'est-à-dire que c'est pas rare de voir 70-80% des gens, si tu veux, qui vont accepter ta demande de mise en relation. Et du coup, bah, au bout d'un certain temps, tu peux exporter tous ces emails-là, utiliser un outil comme MailJet ou autre et leur envoyer des emails.
Ok. Donc là, c'est basé à chaque fois, tu as un développeur en fait qui te fait les scripts quoi, pour automatiser un peu tout ça.
Ouais, moi j'ai plusieurs développeurs, si tu veux, qui sont tous en Roumanie, que j'ai formés parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Et en fait, en fonction des besoins, chacun a sa spécificité. Donc on en a un, par exemple, qui est spécialisé dans le parsing. Donc que ce soit du parsing d'adresse postale, parsing scrapping, t'emploies le mot que tu veux, d'annuaire, de choses comme ça. Et lui, effectivement, c'est lui qui fait. De toute façon, ce que je dis toujours, on a souvent entendu dire, notamment si tu regardes les vidéos The Family et compagnie, souvent les gars disent, enfin les intervenants, aujourd'hui un gross hacker, comme ils disent. Alors moi je déteste le mot gross hacking parce que c'est juste du web marketing, et la petite parenthèse, mais ça me fait doucement rigoler quand je vois les mecs qui ont l'impression d'avoir inventé le marketing. Le gross hacking, si t'écoutes ce qu'ils disent, on en fait depuis que j'ai démarré en 2003. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui est totalement véridique dans ce qu'ils disent. Soit t'as les compétences, soit t'es déjà un techos, un développeur, et tu t'es formé au web marketing, et là c'est génial, tant mieux pour toi. Mais je veux dire, il y en a quand même très peu, et j'ai rarement rencontré de très bons développeurs bons en marketing, parce que juste chacun son métier, et tu vas en avoir un qui est cerveau gauche, l'autre qui est cerveau droit, et donc tu peux pas être à la fois un bon technicien, enfin tu peux, hein, mais c'est très rare, il y en a très très peu, hein, je pense que ça se compte à moins de 5%. Tu peux difficilement être à la fois un créatif et un très bon développeur, parce que tout simplement c'est les deux cerveaux différents, cerveau gauche, cerveau droit. Moi je suis un très bon créatif, je me suis jamais formé au développement parce que juste c'est juste pas mon délire, mon cerveau il est pas fait pour pondre de la ligne de code pendant une journée sans... Je dis pas que les mecs réfléchissent pas, hein. Ils pensent bien évidemment qu'un bon développeur il va penser sa stratégie. Mais par contre il y a un truc qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui plus que tout, si surtout tu démarres ton business, mais même quand tu démarres pas, même toujours, mais surtout pour ceux qui démarrent, si vraiment tu veux développer ta boîte rapidement et connaître une croissance fulgurante, t'as pas d'autre choix que de travailler en binôme avec un développeur.
Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que t'es entré en contact avec cette connexion roumaine? Comment est-ce que ça a commencé pour toi? C'est du Odesk, c'est...
C'est super simple, c'était codeur.com à l'époque, ça devait être en 2007, 2008 ou 2009, je ne sais plus, peu importe, on cherchait un dev pour développer une place de marché. On en a un, donc parce qu'en fait je travaille avec... Enfin, en fait, le développeur de l'agence, enfin le patron de l'agence en Roumanie est devenu un pote. C'est lui qui nous a répondu à l'époque, il nous a fait un bon boulot, puis un deuxième, puis un troisième pour pas cher. Du coup, on lui a toujours tout confié. Il y a 2 ans, on lui a proposé de s'associer avec nous pour prendre en charge le développement de tous nos sites e-commerce et tous nos annuaires, et nous, on s'occupait du SEO et du web marketing. Ce qui lui allait très bien parce que lui, il parle peu français, il y connaît rien, mais voilà, le marché français est quand même beaucoup plus gros que le marché roumain. Et donc voilà, petit à petit, ça nous allait très bien, parce que nous on voulait des devs, mais on avait fait l'expérience de travailler avec des devs, si tu veux, à distance, peu importe qu'ils soient français ou pas, et en fait, il y a pas de suivi. Un dev en freelance, il va toujours te dire qu'il bosse que pour toi, puis au final, il a 5 autres clients à côté, et tu perds un temps fou, etc. Nous, l'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'on prend des devs au besoin, donc là, on en a toujours, si tu veux, 4 ou 5 d'attitrés, mais si demain, on a besoin d'en avoir 10... il va nous en mettre 10, qu'il en a une quarantaine ou une cinquantaine, je sais plus. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a un chef de projet derrière, ils sont tous ensemble dans les locaux, il y a Alex, le patron, qui est là, qui fait le suivi, nous on passe par Alex pour mettre les deadlines, etc. C'est lui qui fait le suivi, c'est lui qui, entre guillemets, leur dit de se bouger quand ça va pas, c'est lui qui met en place les systèmes de primes si les mecs atteignent les délais, et on est certain que le mec, de 9h à 18h, il bosse exclusivement pour nous et qu'il a pas 5 autres clients à côté. Et on est aussi certain que le mec revend pas nos données, revend pas les plugins qu'il a développés pour nous à d'autres, ce qui est le cas de beaucoup de développeurs, beaucoup de gens qui font appel à un dev, qui n'ont pas l'habitude, ne savent pas comment rédiger en fait des bons accords, des contrats, etc. Là, si c'est en France, donc le dev va réutiliser ce qu'il a fait pour eux, pour d'autres. Et si c'est offshore, de toute façon, bah, t'es niqué parce que tu pourras rien faire juridiquement si le gars il revend tout ce qu'il a fait pour toi à d'autres, quoi.
Donc tu peux nous donner une idée d'un budget, donc disons dans l'abstrait, en dehors de ton deal que toi t'as avec eux. Et si demain je suis un marketeur lambda français que je veux faire un partenariat avec un roumain, engager un développeur disons à mi-temps, ça me coûterait combien?
Un mec full time, même diplôme qu'un ingénieur français sorti d'Epitech, 5 ans d'expérience, entre 1000 et 1200 euros par mois. Un plein temps 600-700 euros, Et pour beaucoup de gens qui auront simplement besoin d'un tiers-temps ou d'un quart-temps, parce que t'as pas forcément besoin d'avoir un techos qui bosse full-time pour toi 8 heures par jour, bah là, ça démarre à 200-300 euros par mois. Maintenant, ce qui est vital, hein, comme tout, hein, faut quand même partir du principe que avant que le gars soit réellement autonome et compétent, déjà, nous on est allé par exemple, c'était au mois de juin, c'était l'année dernière, un nouveau développeur qui gère notamment tous nos sites e-commerce, avec il y a quand même beaucoup, si tu veux, d'optimisation SEO à mettre en place, avec la stratégie du silo, enfin tu sais, le fameux cocon sémantique, etc. Bon bah on est allé avec mon associé Sébastien un mois sur place. 30 jours complets sur place, tous les jours pour former les gars, leur expliquer comment on bosse, comment mettre en place nos stratégies, etc. Faut en passer par là parce que sinon le gars il sera jamais autonome et compétent. Puis c'est pas leur métier hein, de savoir comment on optimise un site e-commerce au niveau référencement. C'est pas leur métier de connaître tes attentes en web marketing, les logiciels que tu utilises, les stratégies que tu as pensées, etc. Enfin, pour la plupart des développeurs en Roumanie, je veux dire, ils savent pas ce que c'est qu'un upsell, ils savent pas ce que c'est qu'un logiciel d'emailing de type Aweber, Mailchimp, etc., etc. Donc c'est voilà, il faut aller les former, idéalement sur place. Et puis derrière, faut mettre vraiment des procédures derrière. Au bout d'un moment, si t'es tout seul, enfin, ou si t'as pas les moyens de te prendre un chef de projet, faut quand même être conscient que si tu dois faire toi-même le chef de projet, c'est 2 heures par jour à le suivre sur Skype ou autre. Faut en être conscient. Hein.
Ok. Donc du coup, toi, tout ça, c'est géré, en fait. T'as le gars qui est sur place et qui fait l'interface.
Ouais, alors je suis quand même pas à l'abri, si tu veux, de temps en temps de devoir faire des nouveaux cahiers des charges, de nouvelles procédures. Mais pour l'essentiel, depuis le temps qu'on bosse avec eux, ils sont déjà faits, les cahiers des charges et les procédures pour mon business. Mais au début, ouais, j'ai galéré parce que pour chaque tâche, tu vois, pour mettre en place un simple truc de style, bah justement, upsell, bah le gars, il faut lui faire un cahier des charges. Voilà, tu dois créer un bon de commande pour tel prix. Quand le gars va avoir payé, il doit aller dans telle liste client spécifique. Faut que tu crées la liste client dans l'échelle d'emailing. Le gars doit recevoir tel accès par email. Alors le gars te dit oui, mais alors les deux sites, ils sont, enfin les deux produits, ils sont sur deux noms de domaine différents. Comment je fais? Bah tu te démerdes. Donc tu vois, donc c'est compliqué. Sauf qu'au début, tu peux pas lui dire tu te démerdes. Parce que voilà, et ça c'est le problème de beaucoup de gens qui ont vraiment essuyé les plâtres et des développeurs, c'est qu'ils sont persuadés que le gars va prendre la peine de réfléchir. Un Roumain ne prendra jamais la peine de réfléchir parce que tu le payes pas pour ça. Tu le payes pour exécuter. Si tu veux un mec qui réfléchit, tu te prends un CTO que tu payes 2 ou 3 fois plus cher.
Ok. Du coup, on a parlé de beaucoup de choses et tu as beaucoup d'activités différentes. À quoi ressemble une journée type pour toi?
Bah, en général, si tu veux, le matin, en général, moi, je fais 8h, midi, 13h30, 15h, après, j'arrête. La journée type, c'est qu'en général, le matin, je vais faire les choses, en fait, si tu veux, stratégiques. C'est-à-dire, ça peut être justement de la mise en place de campagnes de pub, penser la stratégie d'un funnel, mettre en place un test AB, etc. Puis, bien entendu, envoyer un email tous les matins, hein, donc avec Aweber ou autre, que j'en envoie un par jour. Et en général, l'après-midi, je fais les trucs. Et le matin aussi, ouais, j'ai tous les matins justement une demi-heure de rendez-vous avec les développeurs. Voilà, parce qu'ils ont toujours des questions. Ou alors, on check que tout a bien été mis en place. C'est pareil, hein, jamais croire sur parole un développeur. Tu lui dis tout est OK? Ouais, tout est OK. Quand tu repasses derrière, il y a toujours 40% des trucs qui vont pas, quoi. Donc tous les matins, on fait ça. Et puis, en général, si tu veux, l'après-midi, je vais me mettre plutôt justement sur le tournage de vidéos. Des trucs plus cool, parce que là moi je suis du matin, l'après-midi j'aime pas, donc le tournage de vidéos, je suis à l'aise de faire des vidéos, je fais jamais de script, je fais ça à l'improvisation, ça me va bien, c'est cool. Puis en gros basta quoi.
Ok. Avant de terminer, j'aurais quelques petites questions pour terminer, mais t'as tout à l'heure mentionné l'idée de SM for Equity, c'est toujours d'actualité ça?
Bah ça, en fait, si tu veux, pour l'instant, on a fermé, enfin on n'a pas fermé le truc, on prend encore des gens, mais on a été très déçus par les gens qui ont postulé quoi. C'est-à-dire que on n'a pas eu vraiment de gars qui est venu nous voir avec genre un super outil ou avec des bons sites e-commerce et tout. On a rencontré deux gars pour des sites e-commerce. On les a trouvés très très mal éduqués, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé, on est allé voir à Paris, etc. 2 fois. Et puis on n'a jamais eu de nouvelles quoi. C'est typiquement dans le gars, tu lui demandes 20%. Et puis en fait lui est intimement persuadé. Et d'ailleurs on a vu peu de temps après qu'ils ont mis une offre, qu'il va prendre un stagiaire web marketing. Et tu sais, c'est les fameuses offres, vous aurez comme responsabilité toute l'acquisition, toute l'optimisation des conversions. Et puis vous n'avez pas d'expérience, mais vous êtes un killer en SEO, en AdWords, en Facebook, en machin, en blabla, en blabla. Donc des gens qui n'ont rien fait depuis qu'on les a vus depuis plus de 6 mois. Et donc voilà, donc si tu veux, oui, si vraiment quelqu'un a un très bon outil une belle place de marché ou un site e-commerce, et qui est conscient du boulot que ça représente, le web marketing et le SEO, et qui est prêt à donner 15 à 20%, ça nous intéresse, sinon c'est pas la peine.
Voilà. Donc pour résumer, parce que j'ai pas précisé dans ma question, le pitch était que tu allais t'occuper d'une partie de leur marketing, donc SEO et, comment t'appelles ça, et AdWords, etc. Et en échange, ils te filaient des parts dans le business, quoi. Voilà. C'est intéressant que tu dises que tu n'as pas eu la qualité de candidat nécessaire. C'est vrai qu'à mon avis, c'est un gros enjeu, quoi, parce que derrière, toi, tu fais un gros pari dessus, sachant que la probabilité que tu aies ton retour est pas énorme, il faut que tu en aies beaucoup de bonnes qualités pour le faire.
Bah en fait, si tu veux, c'est le syndrome qu'on retrouve assez souvent. J'ai un site, TeamEasy, je sais pas si tu connais, qui met en relation des porteurs de projets justement avec des associés potentiels. Et en fait, tu te rends compte que t'as beau leur répéter sans cesse qu'une idée ne vaut rien, seule son exécution compte, les mecs, ils sont tous intimement convaincus, tu vois, que c'est le prochain Facebook, que leur boîte, elle vaut 1 milliard alors qu'ils l'ont même pas lancé. J'ai vu des mecs oser me dire, ils ont qu'un business plan, ils ont même pas un bout de site internet de créer, ma boîte, elle vaut 1 million, quoi. Donc on est dans un autre monde, quoi. Les gars ont dû trop regarder The Social Network là de Facebook, enfin je sais pas, ou alors c'est le fait de lire tous les blogs tous les jours sur les levées de fonds américaines.
C'est ce qu'on t'apprend en école. Moi j'étais en école de commerce il y a pas si longtemps, c'est ce qu'on t'apprend. On t'apprend, fais un joli PowerPoint et les gens te donneront de l'argent.
Ouais voilà, bon, moi tu vois j'ai levé des fonds 2 fois, je peux t'assurer que ça se passe pas comme ça. Et pour ceux qui veulent le faire, si t'as pas déjà, enfin tu perds ton temps si t'as pas déjà fait au moins 20-30 000 euros de chiffre d'affaires rapidement pendant 3 ans et que t'as pas des métriques concrètes à montrer, quoi. Et j'ai vu des gens perdre 2 ans comme ça à faire le tour de tous les investisseurs de la place. Enfin ça, si tu veux, c'est une petite parenthèse, on en parle pas souvent dans le secteur, mais je me suis intéressé au secteur startup et les gars, voilà, au bout de 2 ans, le mec il a fait que ça. Alors il est content, mais il a réussi à lever 100 000 balles et puis il a lâché 30% des parts de sa boîte et sa boîte elle vaut plus rien. Et avec 100 000 euros, le mec il est intimement convaincu qu'avec 100 000 euros, il va embaucher 4 personnes, tu vois. Parce que dans sa tête, il va y avoir 10 stagiaires et que justement pour lui, le web marketing fait partie des postes qu'il va confier, si tu veux, à un stagiaire qui n'y connaît rien. Donc, si tu veux, les mecs ont pas compris que tu peux avoir le meilleur produit du monde, les meilleures techos du monde. Si derrière, t'es une merde en marketing, tu feras jamais rien. Et on en a vu des tas comme ça.
Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils me disent, écoute, on va payer un gars 400 euros pour monter notre boîte, grosso modo, pour faire toute notre vente et pour faire toute la partie dure du boulot. C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a eu, disons, une fracture entre les gens qui lèvent de l'argent et les gens qui vont être en bootstrap et qui vont financer tout avec leur vente à partir de zéro? Parce qu'aux USA, moi, je vois beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a une grosse différence. Donc, soit tu vas être maître du monde et tu vas lever X millions en Silicon Valley, soit tu vas être bootstrap et le faire à la main et être un lifestyle. Tu penses qu'il y a une différence ou pour toi, c'est kiff-kiff?
Bah, si tu veux, ça dépend, t'as deux parts de choses. T'as des gens qui arrivent quand même, hein, via leur réseau ou autre, à lever effectivement de l'argent sur que dalle, hein. Je veux dire, j'ai vu des boîtes lever au bout d'un mois d'existence 500, 600, 700 000 euros. Alors, j'enlève les gens qui ont déjà levé des fonds ou pas, monté une boîte et revendu la boîte. Hein. Effectivement, ces gens-là sont légitimes et vont lever de l'argent beaucoup plus facilement parce qu'ils ont la confiance. Enfin, bref. Mais sinon, j'ai vu des gens effectivement qui ont levé de l'argent. Et franchement, tu te demandes pourquoi, parce qu'il y a déjà 100 concurrents, les gens n'ont pas de compétences particulières. Bon, juste, c'est des bons pitchers. Ils ont bien vendu leur truc. En général, c'est des mecs qui sont bons en finance, qui ont fait un beau business plan. Vous allez quand même savoir que la majorité des investisseurs que tu vas voir, je parle pas des business angels, mais des fonds, tu t'adresses toujours à des financiers. Hein. Donc voilà. Et puis, on va pas se voiler la face, c'est un coup de chance. Ils arrivent vraiment au bon moment avec le produit que l'investisseur n'a pas dans son portefeuille et l'investisseur, ça lui trottait dans la tête déjà depuis un certain temps de vouloir investir dans une boîte dans ce secteur. Donc c'est vraiment une histoire de bon moment, quoi, je veux dire. Et donc c'est un gros coup de poker, c'est un gros coup de chance. Sinon, à part ça, t'as des mecs qui lèvent des fonds, mais qui, si tu veux, qui ont déjà fait des choses, qui ont sont passées justement par cette fameuse méthode bootstrap, quasiment tous d'ailleurs, hein, qui ont mis les mains dans le cambouis, qui ont réussi à avoir une belle croissance rapidement via différentes techniques de scrapping, d'acquisition, parce qu'ils avaient un bon produit, parce qu'ils ont su mettre de la viralité en place. Enfin, tout simplement, ils ont appris les codes du web marketing et surtout, ils les ont appliqués rapidement. Donc, s'il y a un bon produit et tout, voilà. Donc, ces mecs-là, derrière, qui lèvent des fonds, ne vont pas aller flamber, si tu veux, et même limite vont prendre peur. Beaucoup, souvent, ces gens-là, tu vas les voir un an après, il leur reste beaucoup de cash de ce qu'ils ont levé. Parce qu'ils vont recruter le minimum de gens vraiment nécessaires et indispensables pour faire tourner la boîte. Ils vont pas se dire parce que je vais lever des fonds, je vais embaucher un assistant, puis l'assistant de l'assistant, puis l'assistant de l'assistant de l'assistant. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que, effectivement, le mec qui lève des fonds assez rapidement, mais qui n'y connaît rien, etc., effectivement, va avoir plus tendance à embaucher tout de suite 20 personnes alors que 5 suffiraient à faire tourner la boîte. Enfin, en tout cas, moi, des gens que j'ai pu rencontrer, c'est ce que j'en ai retiré. Maintenant, j'ai pas la science infuse. Maintenant, j'ai quand même pu voir la majorité des boîtes qui ont levé des fonds. Enfin, t'as quand même des gens intelligents, quoi. Je veux dire, faut arrêter de croire que n'importe quel con lève des fonds parce qu'il a un beau PowerPoint et qu'il a l'idée du siècle. T'as des gens intelligents en face. Avant l'euphorie de la levée, juste avant que ça se fasse, t'as toujours, effectivement, moi je l'ai fait, l'euphorie de te dire justement. Putain, c'est génial, je vais pouvoir embaucher 5 devs, puis du coup, je vais pouvoir faire ça, 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 c'est juste énorme. T'imagines le pognon qu'on va rentrer, on va pouvoir développer 10 outils dans l'année, faire ceci, cela. Puis bon, après, t'arrives concrètement, t'as un développeur qui arrive, faut le former, faut quand même être derrière lui. Tu te rends compte que ce que tu pensais qu'il allait faire en un mois, il va lui falloir 6 mois pour le faire. Que de toute façon, toi, t'as autre chose à faire, tu peux pas passer ton temps à recruter, à former des gens, etc., etc. Donc si tu veux... Voilà, c'est... Au final, si tu veux, il n'y a pas de bootstrap ou pas bootstrap. Tu connais, entre guillemets, tes besoins et tu mets juste ce qu'il faut pour avoir tes besoins. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vois.
Ok. Alors, du coup, juste avant de terminer cette interview, je voudrais te poser 3 questions rapides. Première question, est-ce qu'il y a un bouquin que tu recommandes souvent ?
Oh bah, très décrié, mais moi j'adore. Ouais, je recommande La semaine de 4 heures.
Bien sûr.
Franchement, je veux dire, il n'y a pas... Quand on parle de business, pour moi, c'est le meilleur parce que... avant tout, parce que ça va donner la patate aux gens, quoi. C'est moi, c'est surtout pour ça, c'est que ça donne la patate aux gens, ce bouquin. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et souvent, le mec, il a bien écrit son truc, il a la patate. Quand t'as compris, bien entendu, que les 4 heures par jour, hein, c'est du marketing.
Qui ne sont pas dans le bouquin, d'ailleurs. Dans le bouquin, il n'y a pas de mention que le mec bosse 4 heures et ça n'a jamais été son pitch. En fait, tu connais l'histoire du titre de ce bouquin ou pas ?
Bien sûr, justement, c'est via des tests AB sur AdWords.
Ouais, et son titre originel a été refusé par son éditeur. Et donc, du coup, il a dû trouver un nouveau titre qu'il a AB testé sur AdWords, il est tombé là-dessus. Et les gens se disent, oh, scandale, Tim Ferriss, il bosse pas 4 heures, comment il a écrit un bouquin en 4 heures ? C'est pas du tout l'histoire, si tu lis le bouquin, c'est pas ça. C'est l'histoire d'un mec qui bosse comme un chien. Et qui décide de monter des systèmes essentiellement pour se sortir de son business et aller être champion du monde de tango, etc.
C'est clair. Mais juste pour finir sur les bouquins, très honnêtement, j'en ai lu un paquet, ça fait un bout de temps que j'en ai pas lu sur le marketing. Les 90% des bouquins que j'ai lus étaient du vent. Quand je dis du vent, c'est ce que je veux dire par là, c'est que t'apprendras rien de concret à mettre en place juste après dans ton business si t'as pas mis les mains dans le cambouis et que t'as pas été testé toi-même. Si tu veux, le meilleur des trucs dans le web marketing, c'est de tester. C'est-à-dire, si moi je te sors un bouquin sur AdWords, je vais te donner des exemples de sujets, de secteurs d'activité, mais le temps que j'ai sorti le bouquin et que tu le lises et que tu mettes en pratique, AdWords, il a déjà changé son ergonomie 3 fois, donc déjà t'es perdu. Entre-temps, les règles ont changé. Tu vois, par exemple, j'en avais sorti un bouquin, moi, il y a un an sur AdWords, un e-book, où je disais comment faire des publicités, tu vois, en display, les afficher pour presque rien, parce que le but, c'est pas d'avoir des clics, mais de la visibilité. Vous mettez une URL courte. Genre, moi, j'avais mis mhack.fr. Boum, je fais un test il y a 2 semaines. Maintenant, Google refuse que tu mettes une URL clairement affichée sur la bannière. Tu vois, les règles vont changer. Demain, je vais te parler... Là, je suis en train de te parler de scrapping d'annuaire. Il y a des gens qui vont utiliser l'interview dans 2 mois. S'ils ont cette cible, par exemple, expert comptable, moi, je l'ai déjà fait. Il y en a peut-être 40 qui sont passés derrière. Au bout d'un moment, les listes que tu vas récupérer, tout va passer en spam. Parce que les mecs, ils en ont plein le cul, les experts comptables, d'avoir 40 mecs qui viennent leur vendre leur truc en les spammant toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand je dis les bouquins sont du vent, c'est que c'est bien pour t'inspirer et te motiver. Mais pour moi, ça doit avant tout, si tu veux, te servir à avoir le déclic et à penser une stratégie. Mais ne vous attendez pas à trouver des réponses concrètes, applicables tout de suite dans un bouquin, enfin marketing en tout cas, j'entends.
T'as aussi l'aspect sur tout ce qui est les bouquins business, c'est que, en gros, le mec a un pitch de 20 pages, mais étant donné les pressions de l'édition, le mec il est obligé de sortir un bouquin qui fait 250 pages, donc derrière il faut remplir le reste, quoi. Et t'as cet effet. Moi, ce que je suis toujours impressionné par les mecs qui font un talk à TED de 12 minutes. Le truc est génial. Derrière, ils ont un bouquin à faire dessus et le mec leur dit, l'éditeur vient le voir, leur dit, voilà 20 000 $, fais-moi un bouquin de 300 pages sur ton truc de 12 minutes. Et là, les mecs doivent enfler. Et tu vois le truc gonfler, et le mec te raconte des anecdotes et ça part dans tous les sens. Et au final, tout le contenu, tu l'as eu dans le truc qu'il avait fait sur la scène à TED en 12 minutes.
Ouais, après, c'est comme tout, hein. C'est quand j'écoute des vidéos de marketing, essentiellement en anglais, je dis pas qu'il y a pas de bon contenu en français, c'est juste qu'il y a des très bons marketeurs et tout, mais bah, tout simplement qu'ils font pas de vidéos, donc je les vois pas. Mais ceux que j'écoute aux États-Unis, je sais d'avance que, en plus, les mecs, ils masquent, comme moi, c'est normal, ils masquent la possibilité d'avancer dans la vidéo ou autre, mais je sais que sur 1 heure, il faut que j'attende les 3 minutes qui m'intéressent, qui vont arriver à 42 minutes 12.
Donc pour revenir sur mes 3 questions, deuxième question, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah d'aller se renseigner un peu ce qui se passe sur Internet, parce que moi à 20 ans, j'y étais pas encore.
D'accord.
Bon, pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, je leur dirais, bah allez-y quoi. Allez-y, même si vous êtes étudiant, je veux dire, c'est maintenant... C'est maintenant, c'est là où vous avez rien à perdre. Je veux dire, t'as 20 ans, t'as rien, quoi. Je veux dire, t'as pas de bien, enfin pour la majorité des gens, t'as pas de bien, t'as pas d'argent, t'as pas de famille, donc concrètement, t'as rien à perdre. Donc si t'as rien à perdre, tu vas pas mettre de l'argent que t'as pas sur la table, donc tu vas justement être obligé de te démerder, bah, de te bouger le cul, de trouver justement des moyens qui font que tu peux acquérir du trafic, développer ton tool ou je sais pas, sans budget. Et c'est le meilleur des apprentissages, même si tu te casses la gueule, c'est pas grave.
Ce que j'ai remarqué, donc moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation-là, c'est que les gens ont tendance à vachement surestimer les risques. Et c'est un truc qui était vachement bien fait d'ailleurs dans la semaine de 4 heures, le bouquin de Tim Ferriss, où il était de dire, essaye de quantifier le pire des cas. Qu'est-ce qui se passe si tu te plantes complètement ? T'as 20 ans, tu plantes ton business, bah dans 6 mois tu vas faire ce que t'aurais fait normalement et tu cherches un job, quoi. Pour terminer, la dernière question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Alors moi j'ai une citation que je dis tout le temps à mes clients. Elle doit exister, je sais pas, moi je l'ai sortie comme ça, je l'avais vue nulle part. Je dis n'importe qui peut réussir en ligne, enfin je parle pour en ligne là. N'importe qui peut réussir en ligne mais pas en faisant comme tout le monde.
Ouais.
C'est tout. Et sinon la citation que j'ai longtemps sortie aux membres sur TeamEasy, là, le site de mise en relation, c'est qu'une idée ne vaut rien, seule son exécution compte. Voilà, mais je pense qu'il va falloir encore des années avant que les gens le comprennent, quoi.
Ouais, c'est... Même les gens me disent encore aujourd'hui, t'as pas peur qu'on te pique tes idées, etc. Bon, écoute, si on pique mes idées, c'est que j'étais pas assez bon pour les exécuter, quoi. Il y a un moment où faut mettre le truc dans le monde et tu verras ce qui se passe.
Non, mais c'est clair. Mais moi, je dis souvent aux gens, si vous voulez, il y a pas de souci. Hein. Je dois avoir un fichier Evernote avec 500 idées, je vous les balance toutes. Il y a aucun problème. Non, faut que les gens comprennent ça. Et si je peux donner un dernier conseil, justement, quand t'as une idée d'un projet et que tu sais que de toute façon, ça va être long à mettre en place. Parce que techniquement c'est long, parce qu'il va te falloir, si c'est par exemple dans le B2C, tu vois, des dizaines d'utilisateurs, etc. Donc potentiellement on parle d'un projet, de l'idée à l'exécution, à la bêta, il va peut-être se passer 1 an. Il y en a des projets comme ça, et tant mieux, et ça arrive, moi j'en ai, je suis en train de développer des tools comme ça, il y en a un, je bosse dessus depuis octobre 2014, il va sortir avec de la chance en octobre 2015. Donc il y en a, mais... Quoi qu'il arrive, si vous avez un projet comme ça qui met 1 an, essayez de trouver ce que les ricains disent, des side projects, des projets à côté qui permettent de faire rentrer du cash en fait rapidement pour financer justement le développement de votre tool tout de suite et surtout pour vous quoi, je veux dire pour pas bouffer des patates tous les soirs, vivre dans une cage à poules et parce que je vois pas la création de start-up justement en mode comme beaucoup de gens disent garage, je bouffe des pâtes et compagnie quoi. C'est vide merde, ça c'est pas possible, le seul truc que tu vas faire c'est t'écœurer de ta boîte. Je vois pas non plus le fait de monter une boîte en bossant comme un trimard, même si j'ai pu le faire il y a des années, à bosser 7 jours sur 7, jamais prendre de vacances et bosser 14 heures par jour, ça sert à rien. Tu vas te dégoûter de ton truc, ça fera pas avancer le truc plus vite. Par contre, prendre des trucs à côté, si vous avez des compétences, moi je l'avais fait ça à Paris parce qu'on m'avait donné l'opportunité que j'aimais bien, j'étais allé chez Learn Assembly, donner des workshops pendant 2 heures le soir, il y avait entre 20 et 40 personnes, les gens, ça dure 2 heures, les gens payent 40 euros la place, Learn doit prendre 20%, bon bah voilà, tu peux te faire 1000 balles dans la semaine, t'as mis 4 heures, quoi. Bien entendu, il faut que t'aies des compétences, mais je veux dire, tu peux avoir 20 ans, et surtout si t'as 20 ans et que t'as fait cette expérience de monter une boîte et de toucher un peu à tout, bah tu peux avoir 21 ans, on va dire, et tout à fait légitime pour aller donner des cours à d'autres. Donc ça peut être ça, ça peut être. Enfin, je veux dire, si tu veux, il y a vraiment plein de choses. Je parle souvent des annuaires localisés et ciblés. C'est quelque chose qui marche très bien, qui permet de mettre en place des revenus récurrents et passifs à condition d'être bon en SEO. C'est un truc, ça met 3 semaines à mettre en place et derrière ça tombe tous les mois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que tu as le droit de prendre des risques, tu as le droit de monter ta boîte, mais sois quand même pas stupide si tu veux assurer tes arrières, quoi. Parce que si ça marche pas dans un an, ce serait quand même mieux de te retrouver avec, je sais pas moi, 7, 8 000 euros de côté que tu as gagné à côté, histoire de pouvoir te retourner, même si tu dois chercher un job, que de te retrouver avec zéro, quoi.
Ok. Pour terminer, je te remercie d'avoir été avec moi, c'était vraiment intéressant. Où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais?
Marketingac.fr.
Marketingac.fr, cool, top. Écoute Ludovic, c'était super, je te remercie d'avoir été avec moi.
Merci à toi, à bientôt.
J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Ludovic. En ce qui me concerne, j'ai appris énormément de choses en discutant avec lui et je vous conseille vivement d'aller découvrir son site marketinghack.fr. Si le sujet des conversions et du marketing quantitatif vous intéresse, une chose à faire maintenant, c'est de vous rendre sur marketingmania.fr et de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, j'envoie entre 3 et 5 liens pour vous apprendre comment mieux optimiser vos conversions, comment mieux mesurer votre marketing et comment être plus efficace et plus rentable dans vos campagnes. Alors faites-le maintenant, vous n'allez pas le regretter, sur marketingmania.fr.